La leçon d'aujourd'hui est basée sur un extrait d'un discours, d'une intervention du Rabbi dans la semaine de Parashat Teruma, Tavshin Nun Bet, Parashat Teruma 5752, il y a exactement 10 ans, en 1992. Le Rabbi dit à cette occasion que les parashias dans lesquels nous nous trouvons, c'est-à-dire les parashias du livre de Shemot, du livre de l'Exode, sont tout en rapport avec la délivrance, avec la sortie d'Égypte, et par extension, puisque la sortie d'Égypte est la première libération du peuple juif, par extension, ces parashiot font écho à la Géoula, à la délivrance par Mashiach. Ainsi, en effet, Shemot, Vaera, Bo et Beshalach sont des parashiot qui font écho à la sortie de manière effective, au processus de la libération, Yitro, don de la Torah, la manière avec laquelle aussi nous jouirons de la nouvelle révélation que nous fera Mashiach sur les dimensions profondes de la Torah, Mishpatim, le temps où les lois, où la société, tant juive que non juive, sera gérée par des lois justes et bonnes, et où justice et paix régnera, donc les temps de Mashiach. Et enfin, Trouma Tetzav et Tissa Vayakel Pikoudé, même plus tard Vayikra, parle de la préparation, la construction du Mikdash, d'un sanctuaire, ce qui représente la préparation de ce monde, l'action que l'homme mène à l'intérieur de ce monde, pour faire de ce monde un sanctuaire pour Dieu, jusqu'au point à ce que Vayikra, ce que Dieu fait un appel à l'homme, et se révèle à l'homme, qui est donc l'idée la plus marquante des temps messianiques. Pour en venir à notre paracha, paracha Trouma, elle commence par un point essentiel dans l'idée du judaïsme, puisque c'est Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et cela n'a pas seulement de sens à l'époque de Moshe Rabbeinu, où les Juifs se devaient de construire un tabernacle, ou à l'époque du roi David et du roi Salomon, ou à l'époque de Ezra, lorsque les Juifs ont construit de manière effective un sanctuaire. Cela se réfère à une mitzvah que nous avons tous les jours, de faire de ce monde un sanctuaire pour Dieu. Jusqu'à arriver à construire le troisième Beth Amikdash lorsque le Mashiach viendra. Et ainsi, cette mitzvah continue permanente vers Souli Mikdash. Ils me feront un sanctuaire. Et totalement dans un esprit de préparation du monde à l'époque de Mashiach. Plus particulièrement lorsque nous entendons le sens de Ve'asuli, ils me feront, tel que Rashi le rapporte, que le mot li signifie lishmi. Li veut dire pour moi, à mon intention. C'est-à-dire que les mitzvot que nous faisons, que l'engagement que nous avons dans la Torah et dans les mitzvot, n'est pas autre que celui de faire à l'intention de Dieu, pour Dieu et seulement pour Dieu, et sans aucun intérêt personnel, sans aucune autre raison, sans aucune autre justification. Nous marquons en cela notre plus grand signe d'amour pour les commandements de Dieu, puisque nous le faisons uniquement pour lui. Et le verset nous énonce, et les dons que les béné Israël devaient apporter pour la construction et l'édification de ce Mishkan, du tabernacle, Dieu dit à Moshe, que tout celui qui est Nediv Libo, dont son cœur est donateur, apportera Zahav Kesef Unechoshet, Trelet Vargaman Tolaat Chani, etc. Que tout celui qui est bienfaiteur, qui voudrait faire du bien pour le temple, qui voudrait participer à cette mitzvah d'édifier le temple, apporte un des 13 éléments nécessaires, des 13 matières premières nécessaires pour la construction du temple. Et la paracha commence à dénombrer ces 13 éléments en disant Zav, Kesef, Nechoshet, de l'or, de l'argent, du bronze, puis de la laine, des tentures, et différentes matières. Or, on peut s'interroger et se dire, si nous attendons à ce que chacun de nous participe à l'édification du temple, faut-il encore que cela se soit dans les possibilités de chacun, dans la capacité, dans les aptitudes de chaque personne? Donc il aurait mieux valu, a priori, commencer le verset par des matières les moins chères, les moins nobles, et qui sont apportées de tout un chacun. Ainsi, on incite chaque individu à cette œuvre, à participer à cette œuvre extraordinaire qu'est l'édification du Mishkan. Et seulement à la fin, on finit par les matières les plus nobles et les plus chères, qui sont l'or, l'argent ou les autres métaux. Et on pourrait répondre de cette manière, qu'à l'époque où Dieu s'adressa à Moshe, l'or, l'argent et le bronze étaient dans les moyens de chacun. Car en effet, nous avons lu précédemment les épisodes qui parlaient de la sortie d'Égypte. Nous avons vu comment chaque juif, en quittant l'Égypte, est parti avec une énorme richesse qu'il avait soutirée aux Égyptiens. Tant au moment de la sortie d'Égypte qu'au moment de la traversée de la mer. Le butin que les Hébreux avaient sorti avec eux était énorme. Et donc il ne leur manquait certainement pas ni de l'or, ni de l'argent, ni d'autres matières précieuses. Néanmoins, cela est une explication pour ce type de commandement, cette manière de composer la phrase pour l'époque de Moshe. Mais étant donné que ce commandement se réfère à chaque époque, à chaque juif, chaque personne qui se doit de construire un temple, il aurait été préférable de commencer certainement en citant de la matière or, puisque l'or, ce n'est pas quelque chose qui est courant, et ce n'est pas quelque chose qui est dans les moyens de chacun. Alors Rabbi répond en disant, c'est de là que nous voyons que cette paracha est totalement un caractère messianique, parce qu'elle présuppose déjà que l'homme se doit d'avoir tout ce dont il a besoin, tant pour sa vie personnelle que pour l'édification du temple. C'est-à-dire, l'homme se doit d'avoir aussi de l'or. Et c'est effectivement ce qu'il y aura à l'époque de la Géoula, où l'abondance sera telle que les richesses seront nombreuses. Et ainsi, lorsque l'on dit « Vassou l'imigdash v'shachanti betoham » ils me feront un sanctuaire, et cela se fait d'une manière à ce que nous avons toutes les matières nécessaires pour la construction. En commençant par l'or, parce que justement nous trouvons dans une époque d'abondance, de largesse matérielle. Du moins dans l'absolu, c'est la manière avec laquelle nous nous devons de vivre. Et Dieu devrait s'engager, devait s'engager, à ce que chacun de nous puisse réaliser cela, comme cela sera réalisable à l'époque de la Géoula, au moment où l'abondance sera grande. Néanmoins, puisque tout ce qui apparaîtra à l'époque de la Géoula, à l'époque de la délivrance, dépend de notre travail personnel, il en est ainsi pour l'abondance, pour la richesse, pour la largesse. Si effectivement nous retrouverons en nous de l'or pour la construction l'édifice du temple. C'est tout simplement parce que l'homme aura fait de ses propres actions quelque chose de cher, quelque chose de merveilleux, quelque chose de riche. Ses actions seront lumineuses, d'une manière à ce que ces actions soient d'une façon de Zehanot en Bari, Zahav, le mot or en hébreu, est en fait l'acrostiche de la phrase Zehanot en Bari. Cet homme qui donne est en bonne santé. Ainsi, est puissant et fort. Il n'est pas faible. C'est dans cet esprit que nous devons de faire les mitzvot, dans un esprit or. C'est donc au sens spirituel du terme qu'il faut comprendre donc ce commandement. Ils me feront un sanctuaire et ils useront de l'or. C'est-à-dire que leurs actions doivent être aussi lumineuses, brillantes, que ce métal précieux, d'une manière de Zehanot en Bari. D'ailleurs, cela est en rapport avec le mois de Hadar, où nos sages nous enseignent que Bari Mazale, que le mois de Hadar est un mois particulièrement chanceux pour la santé. Et ainsi, nous passons des parashiot Teruma, Tetzav et Kitissa, qui parle de ces commandements d'édifier le Mishkan, à une paracha qui conclura le livre de l'Exode. Vayakel, et Pikoudé, et Vayakel, c'est-à-dire, et Moshe rassembla. C'est-à-dire que le peuple juif se trouve, effectivement, dans une période pré-messianique. Alors il se doit de se rassembler, d'être un kahal, d'être une seule et unique communauté, malgré toutes les divergences. Et que Ishechad Belevechad, comme un seul homme, et d'un seul cœur, et agir dans un esprit de Ve'aftal Ra'acha Kamocha, aimer son prochain comme soi-même. Cela nous impose donc d'ajouter pour pouvoir anticiper la Géoula, ajouter dans des actes de bienfaisance de Tzedaka, et dans Avot de Rabbi Nathan, il est marqué que pour l'édification du temple, même les petits-enfants ont participé, Tinokot Shel Bel Rabban. Il lancera ainsi pour l'édification du troisième Beth Amikdash, où tous auront de l'entrain pour construire le temple, et ainsi même les tout-petits-enfants participeront à cela par leurs dons, au point où cette idée de l'Avdot de Rabbi Nathan, de la participation des enfants dans l'édification du temple, peut être prise aussi au sens figuré, puisque le Sifri nous dit que les Juifs, dans la période de l'exil, sont comparés à des enfants. Et les mitzvot qu'ils font sont une sorte de préparation, d'éducation, avant que vienne la Géoula, cette époque où nous ferons les mitzvot telles que Dieu voudrait que nous les réalisions vraiment. Dans cet esprit, nous passons d'une époque d'exil, qui s'appelle en hébreu Gola, à une époque de Géoula. Et nous pouvons remarquer que ces deux mots, qui sont tout de même des paradoxes, Gola et Géoula, l'exil et la délivrance, ont une écriture commune, Gimel Vav Lamed He, Gimel Vav Lamed He dans les deux mots. La seule chose qui différencie le temps de la délivrance, le temps de la Géoula, du temps de la Gola, du temps de l'exil, c'est un Aleph en plus. Car lorsque l'homme introduira le Aleph, le 1, l'unique, l'unicité de Dieu, dans son monde, dans sa réalité quotidienne, alors ce sera la Géoula. C'est cela, construire un sanctuaire pour Dieu. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai en eux. Il n'est pas dit je résiderai dans le temple, mais je résiderai parmi eux, parmi le peuple juif. Parce que si chaque juif fait de son monde, qui est encore à l'état de Gola, d'exil, un monde dans lequel vient s'inscrire, vient s'incarner le Aleph, de Dieu, l'unité de Dieu, alors nous passons de la Gola, de l'exil, à la Géoula. Et ainsi, comme disait le roi Salomon au moment de l'inauguration du temple, Hashamaim ushme Hashamaim lo yichal kelucha. Il est vrai que les cieux et les cieux des cieux, c'est-à-dire les degrés les plus spirituels, ne pourraient contenir Dieu qu'im habayit hazé. Seuls des actes concrets, seule une maison matérielle pouvait contenir Dieu. Seuls des actes dans un monde concret, dans le monde de la Gola, de l'exil, dans lequel nous introduisons le Aleph de la divinité, transformer le monde matériel en un monde où fusionne la spiritualité et la matérialité, alors, et seulement là, nous faisons de ce monde un sanctuaire. Dans cet esprit, dans l'esprit du roi Salomon, qui a construit le premier temple, inspiré par son père David, nous construisons un monde où se révèle le Mashiach descendant de Shlomo et de David, comme nous dit Maïmonide. Et espérons que, du fait de parler de tout cela, et particulièrement en ne se limitant pas à la parole, mais en ajoutant dans des actes concrets de Torah aux mitzvot, et particulièrement dans des actes de tzedaka, nous puissions faire à ce que la Géoula se révèle de manière rapide et de manière effective, et tous ensemble, hommes, femmes et jusqu'aux plus petits enfants, nous marcherons ensemble avec Mashiach vers la Géoula. Yehi Adonainu, Morenu, Verabenu, Melech HaMashiach, Lolam Ved.